de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir chers auditeurs, vous écoutez maintenant le journal d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie. Ce soir avec moi Audrey. Vous allez écouter quelques informations importantes, entre autres l'ambassade de l'Indonésie à Tokyo. Aucun citoyen indonésien devient victime du typhon Hagibis au Japon. 20 jeunes ambassadeurs de l'ASEAN promeuvent des programmes de protection sociale au sein de la CFD, Journée sans voiture. Ensuite, il y a l'information de Coupang accueillera un séminaire national des villes intelligentes. Et ensuite, le gouvernement inaugure Palaparing au Llano de Palapa. Mon cher auditeur, voici les nouvelles en complet. KBRI ou l'ambassade de l'Indonésie à Tokyo, aucun citoyen indonésien devient victime du typhon Hagibis au Japon. Le typhon Hagibis a frappé les Japonais depuis samedi 12 octobre dans la nuit, faisant des victimes mortes et des blessés. Cependant, aucun citoyen indonésien tué ou blessé lors de cet incident. Cela a été dit par le conseiller du ministre dans le domaine de l'information et des fonctions socioculturelles, Eko Santoso Junor, dimanche 13 octobre 2019. D'après des informations reçues par l'ambassade d'Indonésie à Tokyo, Eko a déclaré qu'un certain nombre de citoyens indonésiens étaient détenus dans des aéroports et des hôtels. En outre, certains citoyens indonésiens doivent être évacués car leurs logements sont touchés par les débordements d'eau. En outre, Eko a appelé les citoyens à continuer à signaler les dernières conditions à l'ambassade d'Indonésie à Tokyo. Il a expliqué que les citoyens indonésiens peuvent accéder aux informations via le compte Twitter @KBRI Tokyo et soumettre une mise à jour via la hotline de l'ambassade de la République d'Indonésie au 08 03 50 68 61 2 ou 08 04 94 06 419. 20 jeunes ambassadeurs de l'ANAC promeuvent des programmes de protection sociale au sein de la CFD, ou Journée sans voiture. Le gouvernement indonésien, en particulier le ministère des Affaires sociales, souhaite promouvoir divers programmes de développement de l'aide sociale dans la région de l'ASEAN. Grâce au jeune ambassadeur de l'ASEAN, le programme du ministère de la Promotion sociale et de l'Éducation sera mieux accepté par la communauté de l'ASEAN. Par intermédiaire du jeune ambassadeur de l'ASEAN, le ministère des Affaires sociales a collaboré avec le ministère des Affaires étrangères pour éduquer et expliquer à la communauté de l'ASEAN les défis et les opportunités en matière de développement du bien-être social dans la communauté. Arton Olara, secrétaire général du ministère des Affaires sociales, a déclaré ce qui suit dans le cadre du conseil d'intégration de la coopération avec l'ASEAN Journée sans voiture, le jeune ambassadeur de l'ASEAN 2019. Dans la zone Journée sans voiture à Jakarta, dimanche 13 octobre 2019. Cet événement fait partie d'une série d'activités d'orientation pour les 20 finalistes du DMAI 2019. Ici, les finalistes fournissent des conseils, diffusent des informations aux habitants de Jakarta au moment de la journée sans voiture. Dans son discours, Hartono a ajouté que l'ASEAN était soutenue par trois piliers, le pilier de la politique et de la sécurité, le pilier économique et le pilier de la culture sociale. Coupang accueillera un séminaire national des villes intelligentes. La ville de Coupang accueillera un séminaire national sur le développement des villes intelligentes en Indonésie, auquel participeront des dizaines de responsables régionaux, soit 24 maires et plusieurs régions. Le maire de Coupang, de Setenggara Est, Jefferson Ribu Kore, à Coupang, a déclaré dimanche que le séminaire national intitulé « Partage des meilleures pratiques du réseau de la ville indonésienne 2019 » se déroulait du 16 au 18 octobre. Il a affirmé que le ministère de la Communication et de l'Information avait choisi 18 villes comme zone de développement de villes intelligentes en Indonésie en 2019. Selon lui, le nombre de participants à la première activité organisée à Coupang était d'environ 600 personnes, composées de maires, des régents, du président du Parlement régional, des PRD, chefs de sous-district de chaque région participant. Le séminaire sur le thème stratégie de développement de la ville intelligente devrait présenter le principal conférencier, le ministre indonésien de la communication et de l'information Rudi Antara, ainsi que plusieurs personnes ressources telles que le président de Citynet, le régent de Sidoarjo, Saifullah, le régent de Banyuwangi, Abdullah Azwaranas, maire de Coupang, Jefferson R. Ribu Kore, et le professeur à l'Institut de technologie de Séoul, Corée du Sud, Misu Keseli. Le gouvernement inaugure Palaparing ou l'anneau de Palawan. Le ministre de la Communication et de l'Informatique, Rudi Antara, a annoncé que le satellite de Palaparing serait inauguré ce lundi 14 octobre 2019 au Palais Merdeka. En même temps, Rudi Antara a nié qu'il y avait un retard dans l'inauguration. Selon lui, le processus de construction avait été achevé bien à la fin d'août. Il a ajouté qu'un certain nombre d'opérateurs de télécommunications avaient déjà effectué des essais et souhaitaient utiliser l'anneau de Palapa. Selon lui, l'anneau Palapa pourrait inciter les opérateurs de télécommunications à répartir équitablement les tarifs. Grâce à la fièvre Pencaksilat tournoi de niveau européen organisé aux Pays-Bas, l'ambassade d'Indonésie à Den Haag, en collaboration avec la Fédération néerlandaise Pencaksilat des Pays-Bas, la Nederlands Pencaksilat Federatie, NPSF, a organisé un tournoi européen de Pencaksilat à l'European Open 2019. Au Sport Campus Zuidpark, Den Haag, les 12 et 13 octobre 2019. Le match du Pencaksilat European Open 2019 a été ouvert par l'ambassadeur de la République d'Indonésie auprès du Royaume des Pays-Bas, Igusti Agung Wesaka Puja. Dans son communiqué de presse, l'ambassadeur Puja a déclaré que l'ambassade d'Indonésie à Den Haag avait pleinement soutenu l'événement et était fier du fait que les Pays-Bas organisaient le tournoi européen Open Pentaxilat 2019. La tenue de ce championnat est une manifestation de l'engagement réel de l'ambassade dans la promotion de l'art du pentaxilat indonésien auprès du monde entier. Cette activité s'inscrit dans le plan du gouvernement indonésien visé à intégrer le pentaxilat aux Jeux olympiques de 2028. Les produits indonésiens sont de plus en plus demandés en Namibie. L'ambassade d'Indonésie à Windhoek a promu des produits indonésiens à l'exposition International Trade Expo, SwiTex, 2019, qui s'est tenu à The Dome, Swakopmund, dans la ville de Swakopmund, dans la province d'Erongo, à environ 400 km de la capitale namibienne, Windhoek, récemment. Miranto Suwandi, la fonction d'information et de culture sociale de l'ambassade d'Indonésie à Windhoek, a déclaré samedi que les produits indonésiens qui étaient promus pour la première fois, tels que les batiks, des produits artisanaux, des collations emballées, des boissons santé, des produits de papier et des produits de beauté. L'ambassade d'Indonésie à Windhoek a également diffusé des informations sur le tourisme indonésien et des informations sur les victimes sans visa pour une visite de 30 jours destinée aux citoyens namibiens. L'ambassade d'Indonésie à Windhoek avait également fait la promotion des produits indonésiens dû au salon industriel et agricole de Windhoek à Windhoek Showground, à Windhoek en Namibie récemment. L'intérêt des visiteurs pour les produits indonésiens exposés est assez élevé. Des entrepreneurs namibiens ont ciblé certains produits tels que les batteries de voitures, les pneus de voitures, les panneaux solaires, le papier. Certains de ces entrepreneurs ont été attirés par le Trade Expo Indonesia qui se tiendra du 16 au 20 octobre 2019 à ICE BSD City Tangerang Banten. Mon cher auditeur, c'était les nouvelles.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La carte de la coalition avant l'investiture du président et du vice-président ». Il reste environ une semaine avant l'investiture du président et du vice-président le 20 octobre 2019. Mais le signal qu'un parti rejoindra la coalition Jokowi et Ma'ruf Amin est de plus en plus clair. Le président Joko Widodo a invité deux présidents de partis non-coalition à discuter de la possibilité de les joindre au gouvernement. Jeudi 10 octobre, Jokowi a rencontré le président du Parti démocrate Susilo Bambang Yudhoyono au Palais Merdeka Jakarta. Le lendemain, vendredi 11 octobre 2019, le président du Parti Gerindra, M. Prabowo Subianto, a été invité par Jokowi au Palais Merdeka. Jokowi a déclaré lors des deux réunions qu'il avait discuté de la possibilité que le Parti démocrate et Gerindra entrent dans son gouvernement au cours de la deuxième période de son règne. Les réunions sont devenues un nouveau chapitre des relations de Jokowi avec Prabowo et Susilo Bambang Yudhoyono. Ce n'est pas faux si le président Jokowi invite les partis démocrates et Gerindra à rejoindre le gouvernement de coalition. Gerindra et démocrates sont les deux grands partis en dehors de la coalition Jokowi-Ma'ruf. Bien que Susilo Bambang Yudhoyono n'ait pas fourni d'informations sur les résultats de la réunion, dans son discours contemplatif prononcé il y a quelque temps, Susilo Bambang Yudhoyono a invité les cadres démocrates et le public à soutenir le gouvernement Jokowi Ma'ruf Amin. Le secrétaire général du Parti démocrate, Hinca Panjaitan, a déclaré aux journalistes le vendredi 11 octobre que son parti était prêt à faire partie du gouvernement si demandé. Prabowo a dit que son parti était prêt à rejoindre la coalition gouvernementale si demandé. Si finalement il n'entre pas dans la coalition gouvernementale, Prabowo a promis que Gerindra continuerait d'aider le gouvernement, mais d'une manière différente. La possibilité de la coalition Gerindra et démocrate au palais changera la carte de la coalition au cours des 5 prochaines années. En rejoignant le Parti démocrate et Gerindra au sein du gouvernement Jokowi et Ma'ruf, il est certain qu'il y aura des sièges dans le cabinet pour les deux partis, c'est-à-dire le Parti démocrate et Gerindra, qui était à l'origine de l'opposition et devait constituer un contrepoids au gouvernement Jokowi et Ma'ruf, deviendrait un parti de soutien du gouvernement. Dans un système démocratique, la force de l'opposition est très importante. Son existence est nécessaire pour contrôler et superviser le gouvernement. Pour que la possibilité de l'émergence d'une attitude arbitraire des autorités puisse être minimisée. Mais jusqu'à présent, le système politique indonésien ne reconnaît pas le terme de parti d'opposition. Pour résoudre diverses questions, que ce soit dans le Parlement, l'Assemblée consultative du peuple ou MPR et d'autres forums, les Indonésiens ont tendance à rechercher des moyens de parvenir à un consensus que de voter, ce qui est considéré comme un dernier effort. Dans un pays démocratique, où le plus grand nombre de voix est majoritaire, le vote est une chose très normale et naturelle. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir, chers auditeurs. Nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 14 octobre. Ce soir avec Maudry. Et nous commençons par les événements du 14 octobre 1973, la rébellion populaire de la Thaïlande. Le soulèvement populaire en Thaïlande de 1973, ou soulèvement populaire du 14 octobre 1973, marquait un tournant dans l'histoire de la Thaïlande. Ce jour-là, des milliers d'étudiants s'étaient rassemblés sur l'autoroute Ratchadamnon. Cette révolte a entraîné la fin du gouvernement de la junte militaire Thanom Kittikachorn et a modifié le système politique thaïlandais. Ce soulèvement illustre spécifiquement l'influence croissante des étudiants thaïlandais dans la vie politique. Passons aux événements du 14 octobre 1994. Yasser Arafat remportant le prix Nobel de la paix. Le comité Nobel décerne le prix Nobel de la paix à 3 personnalités importantes du Moyen-Orient, considérées comme ayant une contribution importante à la paix. Le prix Nobel a été décerné le 14 octobre 1994 aux dirigeants palestiniens Yasser Arafat et à 2 responsables israéliens, à savoir le premier ministre Yitzhak Rabin et le ministre des Affaires étrangères Shimon Peres, qui avaient conclu les accords d'Oslo concernant le gouvernement palestinien indépendant et autonome. Nous terminons HDS d'aujourd'hui, le 14 octobre 2017. Les événements de bombardement de Mogadiscio, le 14 octobre 2017. Une explosion massive causée par un camion piégé à Mogadiscio. La capitale somalienne a fait au moins 327 morts et près de 400 blessés. Le camion a explosé après avoir été arrêté. La véritable cible de l'attaque était vraisemblablement un complexe immobilier composé d'organismes et de troupes internationaux, bien qu'aucune partie n'ait revendiqué la responsabilité de l'explosion. Les autorités ont indiqué qu'Al-Shabaab était responsable. L'attaque était la plus meurtrière de l'histoire de la Somalie, dépassant celle de l'attentat de Mogadiscio en 2011, qui avait coûté la vie à 100 personnes, et la plus meurtrière d'Afrique. Il s'agit également du cinquième acte de terreur le plus meurtrier de l'histoire moderne. En réponse à cet attentat, le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a déclaré 3 jours de deuil. Chers auditeurs, c'est tout HDH d'aujourd'hui. Merci beaucoup, au revoir.
Sampingku, aku ucapkan janji setiaku kepadamu, kepadamu, sayangku ini. Tak pernah kusangka. Janji tak terpenuhi, pengertianmu selalu kuharapkan. Oh sayang, 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 sayang. Oh sayangku.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Badai du Blanc Décembre, chantée par Andy Riff. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie. Secrétaire, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche inaugure ses activités prioritaires pour le développement de la marine et de la pêche ». Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, a inauguré jeudi symboliquement ses activités prioritaires pour le développement de la mer et de la pêche. L'inauguration a été directement dirigée par la ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Susi Pujiastuti, de l'emplacement du stockage à froid de 1000 tonnes situé dans la zone de pêche de Muara Baru, dans le district de Penjaringan, au nord de Jakarta, et relié par vidéoconférence à plusieurs autres sites d'inauguration. Outre le stockage à froid de 1000 tonnes, d'autres développements prioritaires qui ont été inaugurés sont le Centre de la mer et de la pêche intégrée ou SKPT de Sebatik, SKPT de Maroké, SKPT Morotai, SKPT Talaut, SKPT Biak, SKPT Mimika, le marché du poisson moderne au PIM de Bandung, l'usine d'alimentation de Pangandaran, le petit réservoir de Pangandaran, les écoles polytechniques de la marine et de la pêche de Bone, de Kupang, de Jembrana, de Pangandaran, l'académie communautaire de Wakatobi et le bureau de quarantaine de la zone de travail de Sebatik. Madame Susi Pujiastuti veut que diverses écoles polytechniques marines et de pêche soient construites dans diverses régions pour aider à réaliser l'industrie 4.0, comme l'a annoncé le gouvernement. Elle a déclaré que les écoles polytechniques existantes devaient être conformes à la mission du président Joko Widodo, consistant à mettre en place des ressources humaines fiables et compétentes. Selon Madame Susi, si toutes les ressources naturelles disponibles en abondance dans l'archipel ne sont pas gérées correctement par les ressources humaines, la valeur commerciale de la production ne sera pas non plus maximale. Elle espère qu'à l'avenir, au moins 5 écoles polytechniques par an sont construites. Auparavant, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche invitait les institutions éducatives dans les domaines de la mer et de la pêche à donner naissance à des entrepreneurs de la pêche capables de contribuer à la réalisation de la vision de l'Indonésie en tant qu'axe maritime mondial. La production halieutique indonésienne en 2018 a augmenté par rapport à celle de 2017, à savoir 24,15 millions de tonnes par an à 24,49 millions de tonnes par an, soit une augmentation d'un 41%. L'augmentation de cette production est l'impact de diverses politiques de gestion de la pêche du ministère des Affaires maritimes et de la pêche en 2015-2018 qui ont un impact sur l'augmentation des stocks de poissons dans les eaux. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Aku tak ingin dicintai bila tak sepenuh hati. Aku tak ingin dimiliki bila tak sepenuh hati. Aku tak mau kau sayangi bila kau setengah hati. Aku tak mau kau ingini bila kau setengah hati. Karena hatiku tak akan ku beri pada kekasih yang
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Serge Littor, c'était la deuxième chanson intitulée « Tak Ingin Dicintai » chantée par une chanteuse Astrid. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Serge Littor, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans votre rubrique quotidienne, le magazine culturel. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une visite touristique au temple Batu Bolong à Nusa Tenggara Occidental. Soyez toujours avec nous, la Voix d'Indonésie, le service international de RRI. Serge Littor, le temple Batu Bolong est l'un des objets touristiques de la côte de Lombok, construit sur de la pierre noire. L'emplacement du temple est très stratégique. Il est situé dans le hameau de Batu Bolong, dans le district de Batu Layar, à l'ouest de Lombok, ou à environ 5 minutes du centre touristique La Place de Senggigi, ou à 20 minutes du centre-ville de Mataram. Selon l'histoire, le temple Batu Bolong a été construit en 1533 par Anaset, à savoir Dang Hyang Dwiyendra, originaire de Java Oriental, quand il a propagé des Zangdu de l'île de Java à l'île de Bali. La dernière destination était l'île de Lombok. Le nom du temple est tiré de la forme de la pierre noire où le temple a été construit. La grosse pierre en forme de colline a un trou. Auparavant, le trou était un accès permettant aux populations locales de chercher du bois dans la forêt de Senggigi avant la construction de la route artère sur le flanc des collines qui relient les régions ouest et nord de Lombok. Si l'eau de mer est à marée basse, vous pouvez traverser le trou qui ressemble à une grotte et arriver à environ 5 mètres à pied. Vous arriverez directement à la plage de Dudu, la longue plage où il n'y a pas de bâtiment entourant la plage, à l'exception de petites échoppes. Pour entrer dans le complexe du temple, vous devez payer 15 000 rupiah à 20 000 rupiah pour le don. Les portières vous donneront un châle jaune noué à la taille, reconnaissant que vous êtes l'invité du temple. En entrant dans le temple, vous ne devriez pas être trop bruyant car c'est un lieu de culte. Autour du temple Batu Bolong, il existe de nombreux logements si vous voulez profiter plus longtemps de la beauté de la nature qui entoure le temple. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir avec comme titre « Le temple Batu Bolong à Nusa Tenggara Occidental ». Demain, nous retrouverons avec un autre sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Semua itu
Chers auditeurs, c'était la chanson de Bunga Citra Lestari intitulée « Karena Ku Cinta Kau ». Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc « Apprendre l'Indonésien ».
Bonsoir tous les amis, on se retrouve avec moi Tiwi dans l'émission « Apprendre l'Indonésien », une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Le sujet d'aujourd'hui est Cuti akhir tahun. Je répète, Cuti akhir tahun, ou en langue française, congé de fin d'année. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée Cuti akhir tahun. Cuti akhir tahun, ou en langue française, congé de fin d'année. À la maison de Joko, Tony et Joko discutent du projet de vacances de Joko.
Akhirnya, aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan.
Syukurlah. Berapa lama kamu akan cuti?
2 minggu.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir cuti akhir tahun, ou en langue française, congé de fin d'année. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase 2 fois. Vous pouvez les répéter après moi. Awal. Awal. En français, le début. Akhir. Akhir. En français, la fin. Tengah. Tengah. En français, au milieu. Berangkat. Berangkat. En français, départ. Berjemur. Berjemur. En français, bronzer. Akhirnya, aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Akhirnya, aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. En français, enfin, je peux prendre un congé à la fin de cette année et au début de l'année prochaine. Syukurlah. Syukurlah. En français, merci mon Dieu. Berapa lama kamu akan cuti? Berapa lama kamu akan cuti? En français, combien de temps vas-tu prendre un congé? 2 minggu. 2 minggu. En français, 2 semaines. Akhir bulan. Akhir bulan. En français, fin du mois. Berlibur. Berlibur. En français, prendre des vacances. Awal bulan depan. Awal bulan depan. En français, début du mois prochain. Liburan akhir semester. Liburan akhir semester. En français, vacances de fin de semestre. Tengah semester. Tengah semester. En français, mi-semestre. Tengah malam. Tengah malam. En français, minuit. Tengah hari. Tengah hari. En français, midi. Saya. Saya. En français, je. Mereka. Mereka. En français, il ou elle. Dans le dialogue, Joko dit, akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Akhirnya, aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. En français, enfin, je peux prendre un congé à la fin de cette année et au début de l'année prochaine. Dans l'expression transmise par Joko, il y a le mot awal, awal en français début, et ahir, ahir en français fin. Les mots awal et ahir peuvent être combinés avec des mots qui indiquent des périodes, tels que mingu, mingu en français semaine, bulan, bulan en français mois, semestre, semestre en français semestre, et tahun, tahun en français année. L'exemple de l'utilisation dans la phrase saya akan cuti pada akhir bulan ini. Saya akan cuti pada akhir bulan ini. Qui signifie je prends un congé à la fin de ce mois. Kami akan berlibur pada awal bulan depan. Kami akan berlibur pada awal bulan depan. Qui signifie nous passerons des vacances au début du mois prochain. Sebentar lagi kita akan liburan akhir semester. Sebentar lagi kita akan liburan akhir semester. Qui signifie bientôt nous allons prendre des vacances à la fin du semestre. Kamu akan kemana akhir minggu ini? Kamu akan kemana akhir minggu ini? Qui signifie où vas-tu ce week-end? Outre les mots awal et ahir, il existe d'autres mots qui sont généralement utilisés pour indiquer l'heure lorsqu'il est combiné avec le mot qui indique la période, c'est-à-dire le mot tengah. Exemple dans la phrase mereka akan berangkat pada tengah malam nanti. Mereka akan berangkat pada tengah malam nanti. Qui signifie ils partiront à minuit. Aku tidak mau berjemur pada tengah hari. Aku tidak mau berjemur pada tengah hari. Qui signifie je ne veux pas bronzer à midi. Pada tengah semester ini tidak ada liburan. Pada tengah semester ini tidak ada liburan. Qui signifie au milieu du semestre il n'y a pas de vacances. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre mieux, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Akhirnya, aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan.
Syukurlah. Berapa lama kamu akan cuti?
2 minggu.
Chers amis, voilà l'édition de la rubrique Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention et à demain.
Aku di sini untuk cinta.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée « Kemenangan Cinta » chantée par Citra. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia d'Indonésie au monde avec le magazine musical. Dans cette édition, nous présentons la chanson Keroncong intitulée « Sebelum Aku Mati ». C'est une chanson créée par Gesang, un maestro de keroncong indonésien. Cette chanson illustre un grand amour pour le pays. Il était donc déterminé à donner quelque chose de significatif à la nation avant sa mort. La chanson originale de keroncong est ensuite chantée à nouveau, dont le genre est toujours keroncong, mais il y a une touche légèrement différente. Alors, chers auditeurs, voici Henry Rotinsulu avec une chanson intitulée « Sebelum aku mati » ou en français « Avant de mourir ». Bonne écoute.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.